vous raconte en 5 épisodes l'histoire de l'année 1976. Dans ce deuxième épisode, les Verts qui font rêver la France, une polémique sur le maréchal Pétain, déjà, un jeteur de sorts assassiné, le procès Goldman pour un double meurtre, et une exposition sur le pharaon Ramsès II qui fait beaucoup causer.
Europe 1, on de la traconte. L'année 1976.
En avril 1976, la France se met à vibrer au rythme du ballon rond grâce à une équipe, les Verts de Saint-Étienne. Rocheteau, Piazza, Kurkovic, Revelli, Larquet. L'année précédente, ils ont failli aller en finale de la Coupe d'Europe. Et cette fois-ci, en avril 1976, ils y parviennent et Revelli mesure l'exploit.
C'est un grand jour car l'année passée, on a frôlé la finale. Cette année, nous avons su prendre la finale en main. Nous avions marqué chez nous. Et ici, il fallait peut-être marquer un but ou alors défendre comme on a défendu. Je crois qu'on a très bien joué. On a retrouvé aujourd'hui une très, très grande équipe de Saint-Étienne sur tous les plans.
En mai 1976, on se dit que c'est enfin possible. Les Verts de Saint-Étienne pourraient décrocher le plus prestigieux des trophées, la Coupe d'Europe. La dernière fois qu'on y a cru, c'était il y a 20 ans, avec le stade de Reims. Alors en mai 76, on exulte. Dans toutes les cours de récré, toutes les usines, tous les troquets, on ne parle que de ça. La France est verte. Et voilà ce qu'elle chante.
Allez, qui c'est les plus forts, évidemment, c'est les Verts. On a un bon public et les meilleurs supporters. On va gagner, ça c'est juré.
La télévision se met au diapason. Yves Mourousi présente son JT de 13h tout en vert.
Ne vous inquiétez pas, si vous nous voyez tout en vert, c'est pour marquer aujourd'hui de cette couleur particulière ce jour, ce mercredi 12 mai 1976. Et sans vouloir faire cocorico, mais permettez-nous quelques clins d'œil d'humour, même si vous n'êtes pas passionné par le football, sans vouloir faire cocorico, nous savons que ce serait quand même pas mal si Saint-Étienne gagnait ce soir face au Bayern de Munich à Glasgow pour cette finale de la Coupe d'Europe de football.
Bon, le trucage est approximatif, hein. Ça tient plus du gros bug colorimétrique. Mais ça prouve l'engouement de tout un pays pour ses champions. Et sur Europe numéro 1, en ce jour de finale, on sonde les stars de l'époque sur l'issue du match.
Le pronostic de Jacques Anquetil.
J'aimerais bien que Saint-Étienne gagne, mais je crois quand même que ce sera difficile parce que le Bayern n'a peut-être plus l'habitude des très grandes rencontres.
Le pronostic de Claude François.
J'ai vraiment l'impression qu'ils vont gagner parce qu'ils ont... Ils ont envie, ils sont passionnés, ils sont emmenés, entraînés par la situation. On dit qu'ils n'ont pas bien dormi parce qu'ils sont angoissés, je sais ce que c'est, mais je suis surhumain le jour où cela se produit. Donc je veux dire, les forces ne sont pas tellement physiques là, elles sont psychologiques. Et je crois que psychologiquement, ils ont plus que le Bayern de Munich qui sont des vieux routiers du succès, disons.
25 à 30 000 supporters français embarquent pour Glasgow en Écosse où se déroulera la finale, suscitant des scènes de liesse inédites. Par exemple, quand les supporters des Verts embrassent la maréchaussée avant d'embarquer à bord de leur avion.
Mademoiselle, oui. Vous êtes optimiste?
Bah bien sûr, de là.
Moi, je pense que Saint-Étienne doit arracher la victoire parce qu'ils nous ont fait une très très bonne saison.
Mais le Bayern n'est pas meilleur que la SSE, non?
Non, non.
C'est vraiment l'honneur de la France d'aller à Glasgow pour obtenir la finale de la Coupe de la Coupe d'Europe.
J'ai pris moi-même mon billet à crédit. Et qu'est-ce que ça vous a coûté?
Eh bien, ça me coûte 110 francs par mois pendant 8 mois.
Bon, je vous la fais courte. Les Verts s'inclinent 1-0. Certains diront que c'est à cause de ces foutus poteaux carrés. Et peut-être aussi un peu la loi du plus fort. En tout cas, les Verts rentrent à Paris et sont fêtés comme des héros. Ils descendent les Champs-Élysées en R5 verte décapotable, acclamés par une foule de milliers de supporters. Destination le palais de l'Élysée, où ils sont reçus par le président Giscard d'Estaing.
Le match est un très beau match.
avec naturellement le sort du sport, et quiconque a pratiqué un sport sait qu'il y a toujours un impondérable, un risque ou une chance qu'on n'en est pas entièrement maître, et le résultat vous permet seulement d'espérer que ce que vous vouliez avoir cette année, vous l'aurez, j'espère, une année prochaine. Et puis en même temps, la région de Saint-Étienne, c'était frappant de voir ce nom de Saint-Étienne pendant toute cette saison qui était imprimée dans toutes les langues, chantée sur tous les stades, c'est-à-dire une ville typiquement française, active, industrielle, et qui donnait vraiment l'image de la vraie France, à la fois sportive et travailleuse.
Et puis, les Verts rentrent à Saint-Étienne, un peu inquiets. Comment leurs supporters vont-ils réagir ?
Voilà, ils y sont, ils sont revenus, et comme accueil, ils ont eu ce qu'il y avait de mieux dans le genre, fanfare, majorette, lâcher de ballon, et en prime, Eddy Mitchell et un rayon de soleil. Quelques petits milliers de supporters à Geoffroy Guichard, petits pour ce chaudron habitué à des bouillonnements beaucoup plus intenses. Mais enfin, il y avait de l'ambiance, celle des grands retours, et lorsque les joueurs ont posé le pied sur leur pelouse à leur descente d'hélicoptère, ça a été l'ovation que vous devinez. Cela dit, lorsque le président Rocher a fait applaudir l'équipe, match admirable, courage, détermination, rage au cœur, mais regret de ne pas rapporter la coupe, les supporters qui ont toujours un moral d'acier ont scandé « la coupe, on l'a eu, on l'a eu ». Du passé, du futur, du présent, eh bien, on ne sait plus, mais ce soir à Saint-Étienne, il y a encore de la joie. Que dis-je ? De la passion.
Cette épopée des Verts survient au moment où la télévision se démocratise dans les foyers français. Et du coup, ben, les joueurs deviennent des vedettes. Et ils signent les premiers contrats publicitaires. Donna Summer en 1976 avec Could It Be Magic.
Europe 1, on de la traconte. L'année 1976.
En mai 1976, à l'occasion des 25 ans de la mort du maréchal Pétain, Antenne 2 programme dans son émission Les Dossiers de l'écran une soirée sur l'occupation et le rôle du maréchal Pétain. Armand Jameau, le producteur des dossiers de l'écran, ne voit rien de choquant à proposer un tel thème.
Je pense qu'on peut le traiter maintenant parce qu'il s'est écoulé un temps raisonnable, beaucoup plus d'un quart de siècle, et qu'il y a en France un nombre de gens beaucoup plus grands qui n'ont pas entendu parler de l'histoire Pétain ni de la vie de la France sous l'occupation que de gens qui l'ont vécu.
Ce 25 mai 1976, l'émission doit débuter par la diffusion d'un documentaire sur la période 40-45. Et elle sera suivie d'un débat entre pétainistes et anciens combattants. Ces derniers sont très peu nombreux à avoir accepté l'invitation. Et ceux qui y vont, ils vont à reculons, comme l'ancien résistant Pierre-Henri Tetjen.
Monsieur Guy Darbois m'a téléphoné jeudi soir pour m'expliquer que si je n'acceptais pas de participer à cette émission, eh bien, les résistants n'y participeraient pas parce qu'ils refusaient de se retrouver face à face avec des gens qu'ils appelaient de la collaboration. J'estime que le problème, puisqu'il est posé devant l'opinion publique, doit être traité. Et par conséquent, j'estime qu'il est de mon devoir de participer à ce débat. Je le ferai avec tristesse, parce que j'estime que, véritablement, tout cela est douloureux pour la France, pour les anciens combattants du maréchal Pétain, certainement, pour les résistants aussi, et qu'il eût mieux valu peut-être laisser cette affaire dans le silence.
30 minutes avant le début de l'émission, des dizaines de manifestants anti-pétainistes se massent devant les locaux d'Antenne 2. Armand Jameau, le producteur des dossiers de l'écran, tente de raisonner la foule.
Alors, excusez-moi, mais si on ne peut pas parler, si on ne peut pas parler, alors c'est pas la peine. Est-ce que vous ne comprenez pas? Est-ce que vous ne voulez pas comprendre que le combat de la télévision, aujourd'hui, c'est le combat de la liberté? Est-ce que vous êtes capable?
Des manifestants parviennent à s'infiltrer jusqu'au studio des dossiers de l'écran.
Madame, mademoiselle, monsieur, bonsoir. Nous avons un sensible retard sur notre horaire et vous voudrez bien nous en excuser. Mais voyez-vous, notre studio habituel a été occupé aux environs de 20h15 par un groupe de manifestants et nous avons donc dû changer de studio, ce qui explique le retard que nous avons à notre rendez-vous du mardi.
L'émission débute en retard, mais son programme reste inchangé. Pendant la diffusion du film documentaire, le standard d'Antenne 2, Allo SVP, est assailli d'appels.
Et avant de donner la parole à nos invités, je vais me tourner vers Guy Darbois pour savoir quelles sont déjà les questions qui sont parvenues à SVP et s'il est d'ores et déjà possible d'en faire une synthèse. Guy Darbois, vous avez la parole.
Oui, eh bien c'est difficile pour le moment encore de faire une synthèse, Joseph Pasteur. Je viens de feuilleter plus de 2000 fiches et je n'ai vu que la moitié des fiches qui sont là et je peux vous assurer que la seule lecture de ces fiches constituerait une émission passionnante. Il y a une telle charge de haine, des affirmations tellement tranchées que l'on se croirait revenu 35 ans en arrière. Des téléspectateurs ont téléphoné simplement pour dire « Vive Pétain ». D'autres, au moins aussi nombreux, pour dire qu'il mérite la mort. Les partisans de Pétain ont deux arguments. Boulogne-sur-Seine, beaucoup de Français étaient contents que Pétain signe l'armistice car nous allions au massacre. Ou bien, qu'aurait fait la France si à la place de Pétain, nous avions eu un Gauleiter. Et les partisans de la résistance accusent. Pétain est le seul à avoir livré ses propres ressortissants. Pour cela, il mérite la mort. Pétain a profité de l'armistice pour instaurer une nouvelle terreur blanche avec ses sections spéciales et le tribunal d'État. C'est cela son plus grand crime, plus encore que sa collaboration avec le régime nazi.
Pendant 2 heures, anciens résistants et pétainistes s'écharpent. Et le lendemain, maître Henri Nogueres, historien et avocat, est l'invité de la matinale d'Europe numéro 1. Et pour lui, c'était une mauvaise émission. Et c'est bien dommage, parce qu'en 1976, la Seconde Guerre mondiale est le conflit qui divise le plus profondément les Français.
Alors, il y aurait plus de rancune dans le peuple français à propos de la dernière guerre qu'il n'y en a à propos de la guerre d'Algérie. Où il y avait pourtant d'un côté les gaullistes, les communistes et les OAS.
Vous savez, je crois que le problème, il s'explique par la nature même de cette guerre. C'est un écrivain allemand, je crois, au lendemain de la guerre, qui a dit « Désormais, les frontières ne passent plus entre les pays, elles passent entre les hommes ». Et je pense qu'en France, au cours de la dernière guerre, la frontière ne passait pas entre les groupes sociaux, entre les classes et même entre les anciens partis, elle passait entre les hommes. Et nous avons vu hier des hommes entre qui il continue à passer une frontière. Moi, je crois que la leçon de ce débat, en tout cas, c'est Pasteur qui l'a tiré lui-même. Car finalement, sa dernière phrase, c'est un constat d'échec.
En novembre 1976, alors que le souvenir de cette émission est encore frais, l'hôtel Rameau de Versailles organise une vente aux enchères d'objets ayant appartenu au maréchal Pétain. À plusieurs reprises, les enchères sont interrompues par des injures et des invectives. Des communistes s'insurgent qu'on vende des reliques du vieux traître. Et des juifs sont en pleurs.
Je dis simplement que nous présentons une vareuse kaki qui présentait aujourd'hui le numéro 37 du catalogue à partir du maréchal Pétain à l'époque où il était chef.
C'est pas le maréchal.
Je suis donc un parti.
Pétain suscite une fois encore des réactions enflammées.
J'estime que dans la salle, il n'y a aucun objet qui soit susceptible d'être critiqué. Il y a les chantiers de jeunesse du général Laporte Dutheil qui a été déporté et qui sont tous passés à la résistance. Il y a la garde du maréchal qui elle-même est passée à la résistance avec la gendarmerie. Il y a les anciens, la Légion nationale des combattants, qui est les anciens combattants de l'autre guerre, qui je pense n'étaient pas des traîtres. Alors je ne vois pas du tout un élément, on n'y voit même pas la milice ni rien du tout. Alors je ne vois pas en quoi on peut critiquer cette vente qui est propre, car il y a au musée de l'armée, comme au musée de Dior, comme à Verdun, des objets, des effets du maréchal, et il n'y a pas de raison d'interdire celle-ci plus qu'une autre.
Je trouve inadmissible de réveiller des souvenirs qui sont encore beaucoup trop récents. Qu'on ait vendu dans 200 ans ou 300 ans, peut-être, mais ce sont des souvenirs qui sont beaucoup trop récents pour beaucoup. Vous comprenez, quand on a vu des tas de gens déportés, quand on a été soi-même condamné à mort, j'estime qu'on ne peut pas laisser passer certaines choses. J'ai été abondamment conspué parce que ça montre qu'il y a encore une très forte proportion de gens qui étaient tout à fait pro-nazis. Et si ça recommençait, malheureusement, et c'est bien ce que j'ai dit dans la salle, la lâcheté engendre la lâcheté. Or, nous n'avons pas le droit d'être lâches.
Dans un tumulte indescriptible, des épaulettes du maréchal Pétain partent à 300 francs, une canne et un chapeau melon à 1000 francs, et le képi porté par le maréchal lors du défilé de la victoire en 1919 s'envole à 7000 francs.
Europe 1, on de la traconte. L'année 1976.
En février 1976, Antenne 2 diffuse son célèbre programme « Les 5 dernières minutes ». Ce soir-là, le commissaire Cabrol enquête dans la campagne berrichonne et il arrête un paysan qui a tué le sorcier du village. Il voulait se venger d'un envoûtement.
Vous êtes le fermier ?
Le commissaire Cabrol, j'enquête sur la mort d'Alcide Loré.
Oui, monsieur.
Elle n'est pas commode, la patronne.
Mais il faut bien, sans ça, les choses arrivent. Il faut que j'aille jusqu'au hangar. Vous
pouvez monter ?
Oui, mais pas de ce côté, là.
Ça a toujours été un peu sorcier par ici, hein? Il y a peut-être eu des sacrifices humains là-dessus. Vous les croyez, vous, à tous ces jetons de sorts, ces envoûtements là?
À Hello, dans le bocage normand, la famille Hérisson est devant la télé. Et elle suit attentivement cet épisode. Dans le salon, il y a Louise, la maman, et ses deux fils, Michel, 21 ans, et Daniel, 28 ans, deux vieux garçons. Bon, ils n'en sont plus au dessert, hein, mais plutôt à la gnole. Mais tu vois, Daniel, ce que je t'ai dit depuis l'autre jour, j'ai raison. Tous nos malheurs, c'est la faute aux sorciers. Même le poste, il dit. Ah, mais oui, Daniel, il a raison, le petit. C'est la faute de ce Jean Camus, là. C'est notre oiseau de malheur. Le frère aîné rumine sa gnole. Et il lâche. Sûr, vous avez raison. Faut nettoyer le sorcier. Faut tuer Jean Camus. Le petit frère brandit alors un vieux fusil et il le charge de deux cartouches qui traînent.
Il est pas terrible, hein, ton fusil. T'inquiète pas, maman. C'est suffisant pour lui.
Les deux frères Hérisson parcourent 30 kilomètres jusqu'à la bicoque du sorcier, qui, à cette heure-là, évidemment, dort dans son lit. Un tir de chevrotine retentit dans la nuit.
C'est bon, maman. La bête est morte. Le petit Michel l'a pas raté, hein.
Les deux frères n'étant pas des pros du crime, ils sont vite interpellés. Et Gérard Fusy, le reporter d'Europe numéro 1, rencontre le curé du village qui explique comment les frères Hérisson ont pu s'en prendre à Jean Camus, le jeteur de sorts.
Bon, quelqu'un qui est malade,
Bon, il est dans sa maison, il arrive un autre malheur. Je sais pas, il casse quelque chose. Une machine qui ne tourne plus. Le petit-fils ou la grand-mère qui meurt. Hein. Bon, tout ça, ça s'accumule. Hein. Et on finit. Quelqu'un qui n'est pas solide, ben, fatalement, hein, il va dire, c'est pas possible, il y a quelqu'un qui m'en veut. Hein. Il y a quelqu'un qui m'en veut, et puis qui va me faire du mal, c'est pas possible. Hein. Bon, puis il va trouver un bon conseiller qui va lui dire, bien sûrement, hein, sûrement. Hein? Connais-tu le grand Camus? Grand Camus? Oh, ben, je le connais comme ça, peut-être, hein? Mais pas spécialement. Hein? Tu sais, c'est ce gars-là. Hein? Hein? Et voilà, il suffit de personnes qui vont pousser dans le même sens, hein? Qui vont persuader que le grand Camus a acheté un sort, comme ils disent chez nous.
À Europe numéro 1, radio un peu parisienne, ce fait divers passionne. On se délecte des mots de la campagne. Et on sait que les rebouteux et autres jeteurs de sorts font recette. Et en mars 1976, un expert vient éclairer les auditeurs sur ses croyances rurales.
Bien souvent, face à la déchristianisation des provinces, face aussi peut-être au manque de médecins, les gens ne savent plus à qui se confier. Ils retournent volontiers voir celui qui a toujours existé, qu'on appelle vulgairement le sorcier de campagne, qui est à la fois guérisseur et leveur de sorts. Alors c'est peut-être l'un de ces personnages qui a des fonctions ambiguës, qui a été la victime de ce fait divers. En tout cas, il n'est pas du tout surprenant que des gens aujourd'hui croient encore à la sorcellerie. La sorcellerie existe parce qu'on continue à y croire, elle a toujours existé, c'est encore un moyen de communication dans nos campagnes. Et même si on en parle à mots couverts, parce que la science aidant, l'évolution des esprits, l'évolution des techniques fait que les gens ont souvent honte de croire à la sorcellerie, mais il continue à y croire et quelquefois ça se termine mal comme aujourd'hui.
Et l'expert raconte sur Europe numéro 1 que normalement, ces différences se règlent à coups de sort.
D'habitude, on ne passe jamais à l'acte, comme disent les psychiatres. On se contente de se défendre ou d'attaquer avec les armes traditionnelles de la sorcellerie. C'est-à-dire que moi, je me crois ensorcelé, je vais voir le leveur de sort de mon village ou celui qui habite dans le canton, et c'est lui qui va intervenir un peu à la façon d'un avocat, si vous voulez. Il va prendre mes affaires en main et il va être censé se battre contre le jeteur de sorts. Alors il va répliquer avec les mêmes armes, c'est-à-dire qu'il va jouer un peu le rôle d'un miroir. Si le jeteur de sorts a envoyé vers moi des forces, des ondes, je ne sais quoi, lui va se placer là devant et va renvoyer le coup à l'adversaire.
Les frères Hérisson, eux, ont préféré user de la chevrotine plutôt que de la baguette magique. Au procès un an plus tard, Michel, le tireur, écope de 8 ans de prison, et son frère, le complice, de 5 ans.
Elle croyait que j'étais James Dean, américain d'origine, le fils de Buffalo Bill à leur admiration. Faut dire que j'avais la chemise à carreaux, la guitare derrière dans le dos pour faire le cow-boy très beau, mes compositions. Elle me parlait anglais tout le temps, je lui répondais de trois mots bidons. Des trucs entendus dans des chansons, consternation. Elle croyait que j'étais coureur, que j'arrivais des 24 heures avec mon casque en couleur à leur admiration. Je lui disais drapeau à damier, dérapage bien contrôlé, admirateur fasciné, une télévision. Partons à la mer, dans ton bolide fendons l'air. Elle passe par le 80 ma traction, consternation. Je suis mal dans ma peau, en coureur très beau. And I just go with ma pince à vélo. Je suis bidon, je suis bidon. Je suis qu'un mec à frime, bourré d'aspirine. And I just go with ma pince à vélo. Je suis bidon.
Vous avez reconnu Bidon d'Alain Souchon en 1976.
Europe 1, on de la traconte. L'année 1976.
En mai 1976, un chouchou des intellectuels et artistes de gauche s'apprête à être jugé par la cour d'assises d'Amiens pour un double meurtre. C'est un militant d'extrême gauche, il s'appelle Pierre Goldman. Et oui, il a quelque chose à voir avec Jean-Jacques Goldman, c'est tout simplement son grand frère. Il est en prison depuis 6 ans et 2 ans plus tôt, il a été condamné pour un hold-up meurtrier, boulevard Richard Lenoir, à Paris. Un hold-up qui a fait 2 morts, la pharmacienne et sa préparatrice. Pierre Goldman a toujours dit qu'il n'était pour rien dans ce hold-up. Et les artistes et l'intelligentsia de gauche l'a cru, l'a soutenu. Et la comédienne Simone Signoret a pris la tête de la mobilisation. Elle crie à l'erreur judiciaire. Et Maxime Le Forestier compose « La vie d'un homme ».
À ceux qui sont dans la moyenne, à ceux qui n'ont jamais volé, à ceux de confession chrétienne, à ceux d'opinion modérée, à ceux qui savent bien se plaindre, à ceux qui ont peur du bâton, à tous ceux qui n'ont rien à craindre, je dis que Pierre est en prison.
Et chose exceptionnelle, ce premier procès est annulé par la Cour de cassation, car il manquait des dates sur les procès-verbaux du premier procès. Peut-être que cette propagande de l'intelligentsia de gauche a fonctionné. Pour son second procès à Amiens, Frédéric Potcher est à la manœuvre pour Europe numéro 1, par téléphone.
Le prétoire est bondé, il fallait s'y attendre. On reconnaît notamment Mme Simone Signoret et M. Krivine. M. Régis Debray est là aussi, mais en qualité de témoin de la défense. Une soixantaine de journalistes sont serrés sur les bancs réservés à la presse. Quant au public à la fois élégant et populaire, on y reconnaît de fort jolies femmes venues de Paris et de toute la région du Nord, et aussi de ces jeunes gens que l'on qualifie à cause de leur tenue et un peu légèrement que l'on qualifie de gauchistes. À 10h15, Goldman est amené dans le prétoire. Nous le retrouvons tel que nous l'avons vu il y a un an et demi, maigre, nerveux, très attentif, l'œil peut-être encore plus sombre qu'autrefois. Comme tous les grands procès, le démarrage de celui-ci est extrêmement laborieux. L'avocat général a pris la parole le premier pour demander l'annexion du livre de Goldman, Souvenirs obscurs d'un juif polonais né en France.
Cette œuvre de Pierre Goldman, écrite en prison, a été saluée dans les milieux littéraires. Outre ce livre en prison, Goldman a passé une licence de philosophie et une autre d'espagnol. Et il prépare un doctorat de lettres. À l'audience, un témoin vient fournir un alibi à Pierre Goldman. C'est son ami antillais, Joël Lautric.
Cette fois, cela paraît certain. Monsieur Joël Lautric, interrogé solennellement par le président Tabardel, a déclaré tout à l'heure « Je suis formel, je déclare sans hésitation que le 19 décembre 1969, Pierre Goldman était chez moi, 47 rue de Turenne, de 19h30 à 20h30, c'est-à-dire pendant le temps même où se déroulait le drame du boulevard Richard Lenoir. Ces mots de M. Lautric, « je suis formel » et « je déclare sans hésitation » ont été prononcés lentement. Tout le monde a pu les entendre et en tirer des conséquences. Mais il ne suffit pas qu'un témoin affirme pour qu'on le croie. Aussi, M. Lautric a dû répondre à une foule de questions, des jurés, du président, de l'avocat général, des avocats des partis civils et aussi des avocats de la défense. Alors, résumons. On a demandé à M. Lautric pourquoi il n'avait pas prononcé des paroles si graves à la police chez le juge Martin en avril 70, après l'arrestation de Goldman. Pourquoi il n'avait pas dit à ceux qui avaient commencé à soupçonner Goldman dès le 21 et le 22 décembre, ce n'est pas lui, il était chez moi. Pourquoi au premier procès devant les assises de Paris en décembre 1974, il n'avait pas innocenté son ami. On lui a demandé aussi de préciser, d'expliciter, de nourrir en quelque sorte ses affirmations sensationnelles par des recoupements et des détails.
Ce témoin, ami de Pierre Goldman, explique que s'il l'a dénoncé, c'est parce que les poulets lui ont tordu le bras.
On a fait de moi, Monsieur le Président, une photo anthropométrique. Et puis on a pris mes empreintes digitales. Et on m'a dit qu'un Antillais était le complice de Goldman. Et que ce complice, eh bien, ce pourrait bien être moi. Lautric continue. Monsieur le Président, je n'ai pas été entendu comme témoin, mais comme présumé complice. J'étais pratiquement arrêté, le Président. Vous avez eu peur d'être happé par la machine judiciaire, Lautric. Oui, Monsieur le Président, j'ai eu très peur. J'ai essayé, comprenez-moi, par tous les moyens de ne pas être compromis dans cette affaire. Et si je n'ai pas parlé, eh bien, c'est que j'ai d'abord pensé à me protéger, moi. Et je répète que je n'ai pas été entendu en tant qu'alibi de Pierre Goldman, mais en tant que complice de Pierre Goldman.
Grâce à ce témoin, le procès tourne à l'avantage de Pierre Goldman, qui enfonce le clou depuis son box. Il répond à la déposition du commissaire Leclerc.
Hier, son dialogue avec le commissaire Leclerc, chef de la brigade des interventions et anti-gangs, a pris par moment une singulière hauteur, non dans l'invective, mais dans le mouvement des idées. C'était une scène à faire pour le Dostoïevski de Crimes et Châtiments. S'y ajoutaient les questions de Maître Polak et Kiejman, qui ne laissent absolument rien passer. Parfois même, on avait l'impression que M. Leclerc était devenu l'accusé. Il s'écria, ce dernier, à l'adresse de Maître Kiejman, « Allons, maître, dites-le, vous cherchez à me piéger. » Eh bien, je pense que c'était vrai. Mais qui pourrait nier que le commissaire Leclerc n'a pas une certaine sympathie pour Goldman? Et qui pourrait nier que Goldman n'a pas trouvé dans le commissaire Leclerc un homme à sa mesure? À la fin de ce face-à-face passionnant et même un peu vertigineux, tous deux paraissaient s'accorder sur les possibilités de la non-culpabilité de l'accusé dans l'affaire du boulevard Richard Lenoir.
L'avocat général est absolument certain que Pierre Goldman est le meurtrier des deux pharmaciennes, et donc il requiert la réclusion criminelle à perpétuité. Et là, les avocats de Pierre Goldman se lèvent pour plaider en dernier.
Maître Kiejman a terminé sa très belle plaidoirie par ces mots. Je suis le seul ici à pouvoir le comprendre totalement, car je suis, comme lui, juif polonais. On ne guérit jamais de ses craintes et de ses rêves héroïques. Mettez un terme à son cauchemar. Goldman est très ému, cela se voit. Maître Polak prend ensuite la parole. C'est un autre ton, un autre rythme, avec ici et là des éclairs presque bouleversants. On note en tout cas cette phrase. Aucun témoin ne fait l'objet d'un examen préalable. On ne leur demande pas, ces témoins, d'être objectifs, pas du tout. On ne se soucie pas de savoir s'ils sont par hasard fascistes, antisémites ou racistes. Ah, vraiment, messieurs, l'erreur est présente à chaque pas. L'audience, pour le moment, continue. Le verdict sera rendu ce soir, assez tard, vraisemblablement.
Après 3 heures de délibéré, Pierre Goldman est déclaré coupable des 3 hold-up qu'il reconnaît, mais il est acquitté pour le double meurtre de la pharmacie du boulevard Richard Lenoir.
Ce verdict a été accueilli par une bordée d'acclamations, d'applaudissements. Le public est contenu par une foule de policiers en casque et armés de mousquetons. Le palais de justice d'Amiens est devenu une véritable ville forte. C'est dans cette atmosphère que le verdict vient de tomber et que une véritable manifestation d'enthousiasme s'est déchaînée en faveur de Pierre Goldman. Il va donc retourner en prison pour purger la peine qui est commencée. Comme il a actuellement environ 5 années et demie de prison accomplie, il ne lui reste plus qu'un délai assez court jusqu'au moment où il aura le droit de demander sa libération conditionnelle.
5 mois plus tard, en octobre 1976, Pierre Goldman sort de prison. Il écrit un second livre et il collabore au journal Libération. Et 3 ans plus tard, il est abattu en pleine journée dans une rue du 13e arrondissement de Paris. Ses meurtriers ne seront jamais identifiés.
Europe 1, on de la traconte. L'année 1976.
Au printemps 1976, Paris attend sa prochaine exposition d'envergure. Et Yves Mourousi, présentateur du JT de 13h sur TF1, l'annonce comme aucun autre.
Salut Ramsès. Oh, je suppose qu'on entendra cette réflexion à partir du mois de mai dans les galeries du Grand Palais lorsque les visiteurs pourront contempler Ramsès II, venu spécialement d'Égypte pour participer à une grande exposition sur les antiquités égyptiennes. Ce sera la plus grande exposition sur ces antiquités jamais organisée à Paris, avec beaucoup de choses qui, pour la première fois, sortiront d'Égypte.
Mais finalement, Ramsès II ne sera pas exposé à Paris, la momie est en trop mauvais état. En revanche, Paris propose de la restaurer. Et donc Ramsès II débarque à Paris pour un grand lifting 3000 ans après sa mort. Sur Europe numéro 1, le préhistorien et archéologue Lionel Balou explique comment les spécialistes français vont travailler.
Une momie, c'est très compliqué. Ça n'est pas seulement le corps de Ramsès II. Ce sont tous les traitements qu'on lui a fait subir pour l'embaumement et tous les objets que l'on a mis dans lui et autour de lui. On parle toujours des bandelettes, bien sûr, mais il n'y a pas que les bandelettes. Il y a tout ce que l'on a mis dans le corps même, voire dans la cavité crânienne, et qui sont des éléments qui peuvent être attaqués ou altérés par des causes de destruction. Alors nous devons chercher ces causes, et pour les trouver, il n'y a pas d'autre solution que de faire des micro-prélèvements toutes les fois que c'est possible, sans altérer le document, et de faire appel à un très grand nombre de laboratoires spécialisés. À partir du moment où nous connaîtrons la cause, où nous pourrons la combattre, il n'y aura plus qu'à passer au deuxième acte de l'opération, c'est-à-dire préparer la présentation de Ramsès II dans son sarcophage, mais dans des conditions de conservation, c'est-à-dire avec un appareillage scientifique qui le maintiendra indépendant de toute l'atmosphère extérieure, en température, en humidité, en lumière, et qui donc assurera sa survie aussi longtemps que possible.
Pendant près d'un an, la momie sera soignée par l'équipe de l'égyptologue Christiane Desroches-Noblecourt. Mais ça ne veut pas dire que la momie pourra à l'avenir voyager de nouveau pour être exposée.
Il faut tout de même avoir un très grand respect pour ce qui reste de Ramsès II. Ce voyage est un voyage d'ordre médical. Il vient se faire traiter comme un souverain va se faire traiter dans un hôpital spécialisé. Il est dans une série d'hôpitaux spécialisés. Mais ensuite, je crois qu'il faudra le laisser dormir en paix, soit dans un musée équipé pour cela, soit dans son propre tombeau, si son tombeau, que je ne connais pas d'ailleurs, peut être aménagé pour le recevoir. Comme vous le savez, on a remis Toutankhamon dans son tombeau.
L'arrivée de Ramsès II en France est un événement. Et TF1 en a la primeur, en septembre 76.
Le musée de l'homme, 15h, hier après-midi. Le professeur Balou, responsable de l'opération, Madame Alice Saunier-Seyté, secrétaire d'État aux universités, et le représentant du gouvernement égyptien, le professeur Nakla, découvrent pour la première fois devant les caméras de TF1, la momie de Ramsès II. Le silence. Impressionnant. Une atmosphère d'église, dans un véritable bloc opératoire. Car il s'agit ici de soigner, de guérir le pharaon, de guérir un homme qui a vécu il y a 32 siècles.
En fait, il s'agit de sauver un monarque d'une seconde mort. Car selon la religion de l'ancienne Égypte, la survie du corps que l'on embaumait garantissait la survie de l'âme qui devait un jour se réincarner.
Les experts français vont parvenir à sauver le demi-dieu de la décomposition et les médecins du Val-de-Grâce détermineront que Ramsès II est mort de la tuberculose, une maladie inconnue au temps des pharaons.
Quatre garçons dans le vent, et moi, ma chanson disait marche tout droit. Cette année-là, quelle joie d'être l'idole des jeunes, pour des fans qui cassaient les fauteuils, plus
pense et moi j'oublie.
C'était Claude François, bien sûr, avec son titre « Cette année-là ». Merci à Guillaume Maury, Julien Pichenet et Boris Paczynski pour la réalisation. Sans oublier Sylvaine Denis à la documentation d'Europe 1. La suite de notre voyage au cœur de l'année 1976 dans le troisième épisode dont Delatte raconte une année.
Retrouvez On Delatte raconte du lundi au vendredi sur Europe 1 et quand vous voulez sur Europe 1.fr, l'appli Europe 1, vos réseaux sociaux et vos plateformes d'écoute.